Pourquoi papa? Bonjour Serge Capistran.
Bonjour Jocelyne.
Alors Serge qui vient une semaine sur deux nous parler des interrogations de ses enfants. Et puis nous aussi des fois tu nous apportes des bonnes réponses. Alors cette semaine c'est quoi?
Aujourd'hui je vais vous parler des constellations à cause du changement d'heure qu'on a eu cette semaine.
Ah, c'est vrai.
Heureusement il fait soleil plus tôt le matin, mais il fait noir plus tôt. Et mon gars, malgré le fait qu'on ait parlé des constellations cet été, qu'on les observe un petit peu, il a réalisé cette semaine, puis là il me regarde et dit pourquoi qu'on a inventé ça, papa?
Oui, mais je me pose la même question.
Alors, une constellation, c'est quoi en fait? Bien, c'est un ensemble d'étoiles dont les projections sur la voûte céleste sont suffisamment proches pour qu'une civilisation, c'est-à-dire nous, les hommes intelligents, les relie par des lignes imaginaires pour créer des formes quelconques.
Mm-hmm.
Alors, utilisé au cours de l'histoire pour le repérage céleste et terrestre, dont les navigateurs, et comme représentation aussi mythologique, les constellations paraissent être regroupées dans le ciel nocturne, mais on les voit un petit peu sur un plan deux-dimensionnel, comme si on regardait un tableau.
Okay.
Mais en fait, elles le sont dans un espace tridimensionnel et sont souvent très dispersées l'une de l'autre. Alors, différentes cultures ont reconnu des constellations différentes. Je vais parler de celles qu'on connaît, nous, mais mettons, par exemple, en Chine, il y en a des différentes. Actuellement, l'UAI, c'est-à-dire l'Union astronomique internationale, divise le ciel en 88 constellations avec des frontières précises pour que tout point du ciel appartienne à une constellation et à une seule, pour pas qu'il y ait d'étoiles qui chevauchent plusieurs constellations. Ces dernières sont regroupées en deux parties, divisant le ciel plus ou moins en deux hémisphères, comme les deux hémisphères terrestres. Donc, il y a le ciel austral pour le sud et le ciel boréal pour le nord. Les constellations boréales sont les plus anciennes et correspondent au pan du ciel visible dans la région de la Méditerranée et par conséquent par les astronomes de l'Antiquité. Les constellations australes, eux autres, ont été nommées par les astronomes occidentaux avant au moins le 15e siècle. Donc, c'est venu plus après. Il y a un manque de documentation historique qui rend un petit peu difficile la détermination de l'origine précise des plus anciennes constellations. Mais il semblerait que le lion, le taureau et le scorpion existaient déjà, pas forcément sous ces noms-là, en Mésopotamie, vers 4000 avant Jésus-Christ.
Oh.
Alors, ça fait très longtemps. Okay. L'une des plus anciennes représentations picturales se situe sur un vase grec datant de 625 avant Jésus-Christ. Près de la moitié des constellations modernes nous proviennent des astronomes grecs, dont Homère, qui mentionnait Orion dans l'Odyssée dès le 9e siècle avant Jésus-Christ, et le Zodiaque apparaît vers le 5e siècle avant Jésus-Christ, divisé en 12 constellations.
Mm-hmm.
Les constellations du Zodiaque se situent dans la bande du ciel contenant le tracé des planètes, des orbites des planètes par rapport au Soleil, ceux qu'on utilisait le plus pour le repérage des navigations, puis bien entendu, ça correspond aux les 12 signes connus des les douze signes du zodiaque.
Oui, c'est ça.
Les constellations de Ptolémée, ça a été un personnage très important parce que lui, il a répertorié dans un ouvrage qui s'appelle l'Almagès au 2e siècle, 1022 étoiles en 48 constellations. C'est une œuvre qui a été la base de travail des astronomes occidentaux jusqu'à la fin du Moyen Âge. Bien entendu, il faut comprendre qu'à cette époque-là, il n'y avait pas la technologie, il n'y avait pas la communication, fait que ça comprend les étoiles visibles à partir d'Alexandrie, c'était le site d'observation que Ptolémée utilisait. Alors, en plus des 12 constellations du zodiaque, Ptolémée en inventorie 36. Hémisphère sud, c'est à partir seulement du 17e siècle, lorsque les Européens partent explorer les mers de l'hémisphère sud, qui découvrent des nouvelles étoiles qu'ils ne connaissaient pas. Donc, en 1603, il y a un astronome allemand nommé Johann Bayer qui publie l'Uranométria, qui devient le premier atlas couvrant entièrement la sphère céleste. Il contient, outre celle de Ptolémée, 12 nouvelles constellations visibles dans l'hémisphère sud, des constellations qui ont été cartographiées par des navigateurs hollandais qui, fort heureusement, ont fait bénéficier leur ouvrage à Bayer. On peut retrouver la colombe, la grue, l'oiseau du paradis, le poisson volant et plusieurs autres. En fait, ce qui témoigne ces constellations, c'est un changement de perception dans ce qu'étaient les constellations. Les Grecs anciens divisaient le ciel en deux parties, c'est-à-dire les constellations comme telles, mais aussi les espaces entre les constellations qui ne semblaient pas appartenir à rien. Johann Bayer, lui, en produisant la carte du ciel pour chaque constellation, commence à rattacher tous les points du ciel, c'est-à-dire l'environnement aussi attaché à la constellation. Donc, à partir de la publication de l'Uranométria au 17e siècle, plusieurs astronomes européens ont tenté de créer des nouvelles constellations sans toutefois connaître un succès. Aujourd'hui, les constellations sont répertoriées par l'UAI, c'est-à-dire dans les années 1920, l'Union astronomique internationale décide de mettre de l'ordre là-dedans et de définir rigoureusement des limites. Donc, l'atlas officiel des constellations, défini en 1930 par Eugène Delporte, divise le ciel suivant un système de coordonnées équatoriales. Là, on tombe dans quoi d'un peu plus scientifique. Mais le tracé est fait de manière à respecter les appartenances des différentes étoiles brillantes à leur constellation traditionnelle, mais aussi à l'environnement contenant les étoiles plus faibles et les autres astres célestes. Pour comprendre un petit peu, ça bouge dans le ciel. La rotation terrestre entraîne un mouvement de constellation autour des deux pôles. Donc, dans l'hémisphère nord, le pôle coïncide avec la position de l'étoile polaire, qu'on connaît bien. Mm-hmm. Dans le sud, c'est Octantis, la référence. Alors, c'est pourquoi que dans les cartes célestes de l'hémisphère nord, l'étoile polaire figure au centre. Alors, selon la latitude de l'observateur, l'heure du jour, la période de l'année, les constellations se lèvent toujours à l'horizon est et se couchent à l'horizon ouest, tout comme le Soleil d'ailleurs. Les constellations qui ne passent pas sous l'horizon sont appelées circumpolaires. Alors, plus l'observateur est situé près des pôles, ben plus il aura accès à ces constellations-là. Ainsi, la plupart des observateurs de l'hémisphère nord, comme nous, par exemple, les constellations telles la Petite, la Grande Ourse, Cassiopée, Céphée, mm-hmm. le Dragon, sont circumpolaires parce qu'on peut les voir durant toute la nuit. Alors que d'autres constellations, cachées le jour par le soleil ou couchées la nuit, ne sont visibles qu'à certaines saisons, comme on parle d'Orion en hiver, qu'on va bientôt voir, la Lyre en été, le Lion au printemps, ou encore, à ce moment-ci de l'année, on voit Andromède. Alors, peut-être Noël arrive, si vous avez des petits garçons curieux à l'esprit oui. scientifique, oui. Ben, des livres sur les constellations avec les petites cartes rotatives à l'intérieur, là, ça fait un tabac.
Okay, c'est l'anniversaire de mon petit-fils, ouais. justement, à très bientôt.
Puis il y a des applications aussi maintenant sur iPhone ou sur votre téléphone, votre tablette, on peut observer avec le GPS là, les différentes constellations dans le ciel là, la nuit.
Que les grands-enfants qui n'ont rien appris lèvent la main. Merci beaucoup, Serge Capistran.
Ça m'a fait plaisir. Bye bye.